Le coup d'état de Chéri Bibi, chapitre 35. Il n'est point si bons amis qui ne se quittent. 3 semaines plus tard, la révolution n'était plus qu'un souvenir. Elle avait été aussi rapidement vaincue qu'elle avait mis de précipitation à tout vouloir dévorer. Les vainqueurs prirent garde de ne se point livrer aux excès qui avaient suivi la ruine de l'ancienne commune. Ils furent les premiers à s'opposer aux représailles et aux exécutions, sauvèrent la vie de quelques otages et firent restaurer les vieux monuments que les énergumènes avaient commencé de pétroler. On laissa filer les gens de Coudry à l'étranger et on permit à Coudry lui-même de franchir la frontière. En attendant que l'Assemblée eût fait place à un nouveau Parlement chargé de réviser la Constitution, la présidence de cette Assemblée avait été donnée au sub d'Amoun lui-même. L'hôtel du Marais avait repris son aspect coutumier. Jacques y avait retrouvé sa mère, qui avait été elle-même transportée dans des conditions qui restaient encore pour elle, comme pour tout le monde, des plus mystérieuses. Enfin, elle était sauvée, et son fils et la fiancée de son fils également. N'était-ce point le principal ? Frédéric Elloni lui-même était venu habiter auprès de sa fiancée Marie-Thérèse, et tout ce monde-là eût pu être bien heureux si le sub d'Amoun, à qui tout désormais semblait sourire, n'eût montré une figure des plus tristes, un front qui s'assombrissait tous les jours. Lydie n'osait point le questionner. La jeune fille, comme la marquise et comme Frédéric lui-même, pensait que la fin tragique de Mademoiselle Liskine ne devait pas être étrangère à de si lugubres pensées. Cependant, le sub d'Amoun ne parlait jamais, même à Frédéric, de Sonia, et il n'était même point allé faire un pèlerinage à l'hôtel du boulevard Pereire, qui était resté fermé, et devant lequel les Parisiens passaient avec respect, comme devant un tombeau. Autour de l'hôtel, la vie avait repris ses aspects d'autrefois. Seul un débit restait obstinément fermé. C'était le fameux comptoir de Monsieur Petit Bon Dieu Fils. On ne savait ce que le patron était devenu. Depuis l'arrivée des Versaillais, on n'avait plus revu dans le quartier son inquiétante trogne. Cette nuit-là, il pouvait être 2 heures du matin, quand 2 ombres, longeant les murs, s'avancèrent l'une vers l'autre. La première, qui paraissait la plus petite et toute recroquevillée sur elle-même, venait des fortifications. La seconde descendait des hauteurs de la rue de Rome et venait de traverser le pont du chemin de fer. Elles arrivèrent presque en même temps devant la porte close du débit et s'arrêtèrent d'un même mouvement. Les abords étaient déserts. La plus petite ombre se prit à travailler la serrure. L'autre faisait le guet. Enfin, la porte s'ouvrit. Les 2 ombres se glissèrent dans la boutique. La porte fut refermée. Une lanterne sourde jeta son ray de lumière et Chéri Bibi dit « Assieds-toi, la ficelle. Je vais faire le tour de la cambuse. »«
S'il y a quelqu'un ici, » répliqua la ficelle, « ils doivent être morts, car on n'a jamais fait si peu de bruit. »
Il entendit le pas traînant de Chéri Bibi qui gravissait l'escalier de l'arrière-boutique. Là-haut, il y eut des portes ouvertes et refermées, puis le silence. Et tout à coup, Chéri Bibi réapparut. «
J'ai fait un tour jusque dans l'hôtel. Tout est tranquille. Nous pouvons causer. »«
Qu'est-ce qui est devenu, petit bon Dieu ?» demanda la ficelle.
« J'allais te le demander. »
La ficelle toussa.
Pourrais-je demander aussi à monsieur le marquis pourquoi il a choisi cet endroit délaissé et lointain et cette heure tardive à laquelle un honnête épismard dort depuis longtemps pour donner rendez-vous à son serviteur ?
C'est pour ne point te compromettre, mon brave la ficelle, répliqua Chéri Bibi en s'asseyant en face de son poteau et en lui caressant la main d'une tape.
« Monsieur le marquis est bien bon.
Appelle-moi donc, Chéri Bibi, comme autrefois. La voix d'un ami est douce à entendre. »
La ficelle recula légèrement.
Il n'aimait point beaucoup ces sortes d'attendrissements de celui qui, depuis tant d'années, n'avait jamais cessé au fond d'être son maître. Qu'est-ce qu'il allait encore lui demander? Est-ce qu'il n'était pas entendu que tout était fini, tout réglé? L'autre jour, chéri Bibi ne lui avait-il pas dit avec un soupir, après l'avoir délivré du bourreau, « Va maintenant, mon bon la ficelle, tu as bien gagné de vivre heureux et tranquille. Nos aventures sont terminées. » Chéri Bibi s'était levé en proie à une singulière émotion. Il revint avec une bouteille et deux verres et versa à la ficelle un cognac de choix. « Comment vont les affaires ? » demanda-t-il de sa voix la plus sympathique. « Mon Dieu ! » fit la ficelle. « Elles reprennent tout doucement. Il n'y manque, hélas, que cette pauvre Madame Hilaire. »« Tu n'en as toujours point de nouvelles ?» interrogea chéri Bibi sur un ton qui plaignait sincèrement la ficelle. « que si j'en ai des nouvelles, et c'est bien ce qui m'afflige !» expliqua Monsieur Hilaire en soupirant. « Ah, c'est un grand malheur. Il n'y a plus de doute maintenant. Elle est bien morte. » « Mon Dieu, est-ce possible ? Ah, c'est sûr ! Brûlée vivante, la pauvre enfant !»« Ne pleure pas, la ficelle. Je n'ai plus retrouvé d'elle qu'une moitié de bottine à demi calcinée et son chignon à peu près roussi. Le reste ne faisait plus qu'un petit tas de cendres que j'ai recueilli pieusement dans un bocal et que j'ai déposé sur le marbre de ma table de nuit. » Une si honnête femme, monsieur le marquis, et si commerçante, c'est affreux. Vous me croirez si vous voulez, mais je passe mon temps à soupirer devant mon bocal. Tu finiras par te miner, exprima chéri Bibi en lui reversant un petit verre. Vois-tu, quand on a laissé le regret passer la porte, il a bientôt envahi la maison. Je serai à ta place, moi, je changerai d'air. « Aïe !» pensa Monsieur Hilaire. « Nous y voilà. Que va-t-il me proposer ?»« Je suis de ton avis, la ficelle. Ta femme était une maîtresse femme, et tu ne pourras jamais la remplacer. Sans elle, tu ne manqueras point de faire faillite. »« Et là, n'exagérons rien !» osa prétendre la ficelle, qui regrettait maintenant d'avoir étalé un aussi vaste désespoir conjugal. « Je suis un homme, que diable !»« Crois-tu ? Sans compter que dans le quartier, avec tes idées politiques du temps de la Révolution, tu as dû te faire pas mal d'ennemis. »« Eh !» protesta la ficelle. « J'ai rendu service à tout le monde. »« Le monde est ingrat. » »« Aussi, je ne lui demande que ce qu'il peut donner. Je n'avais que deux amis, messieurs Barquimel et Florent. Ils ont disparu dans la tourmente. » Je saurais m'en consoler, bien que j'aimais à voir apparaître leur bonne figure à l'heure du petit vin blanc du matin. Quant aux autres, ils viendront comme par le passé, car le monde, monsieur le marquis, le monde ne résiste point à la bonne marchandise. C'est là tout le secret du commerce, ça n'est pas sorcier. Enfin, je vois qu'en dépit de la disparition tragique de votre épouse, monsieur Hilaire, vous tenez toujours à vendre vos pruneaux. Hilaire pâlit, mais il rassembla son courage. Oui, monsieur le marquis, avec votre permission. C'est bien, fit chéri Bibi en se levant. Je n'ai plus rien à te dire. La ficelle était bouleversée. Il eut un mouvement de rage enfantine. Je ne sais pas de quel bois vous êtes fait, monsieur le marquis, mais moi, à mon âge, j'éprouve le besoin de me reposer. Dans un état honnête et considéré. Je l'ai bien mérité. Et si vous me permettez de vous donner mon avis, vous aussi, monsieur le marquis, vous devriez vous en tenir là. Prenez garde qu'un dernier coup ne vienne tout démolir d'un si bel édifice. C'est la sagesse même qui parle par ta bouche, grogna chéri Bibi. Et tu jaspines avec une éloquence si étonnante que je ne m'étonne plus de tes succès au club. Mais je vais te dire une chose, une seule. Si je ne fais pas ce dernier coup-là, tout est perdu, et le reste n'aura servi de rien. Monsieur le marquis se fait peut-être des idées. Ça lui est arrivé quelquefois.
Ne dis jamais une chose pareille,
glapit chéri Bibi en lui étreignant le poignet à le faire crier.
Non, non, chéri Bibi ne s'est jamais fait d'idées. Chéri Bibi n'a jamais tué que lorsque c'était nécessaire.
Monsieur Hilaire recula tout pâle.
Alors, demanda-t-il en tremblant, il y en a encore un qui vous gêne ?
Deux.
Il y eut un gros silence entre les deux hommes. Ce fut Monsieur Hilaire qui reprit le premier la parole.
Ah là là, que c'est embêtant, dit-il en se claquant la cuisse.
Tout de même, je ne vous forcerai pas, Monsieur Hilaire.
Eh, Monsieur le Marquis, vous voyez bien que je vous écoute. C'est embêtant, mais je vous écoute. De quoi s'agit-il, voyons.
Voilà, fit chéri Bibi après s'être recueilli quelques secondes. Le subnamoun est triste.
Et pourquoi donc, grand Dieu?
Il est triste parce qu'il a été sauvé par un homme qu'il ne connaît pas et que cet homme, pour le sauver, a tué Monsieur Dimier, qui était un honnête homme, et beaucoup d'autres.
Peuh!
Un soldat. Est-ce qu'il devrait même s'inquiéter de cela? C'est de l'enfantillage. Et puis je ne vois pas en quoi nous le rendrions moins triste en en tuant encore deux. Ça ne ferait au contraire, si je vous ai bien compris, qu'augmenter sa tristesse.
Le subdamoun est triste jusqu'à la mort, reprit durement chéri Bibi, parce que depuis 10 jours, des lettres le poursuivent, lettres anonymes qui vont le chercher partout et dont j'ai surpris quelques-unes, et dans lesquelles on lui dit qu'il n'a été dans toute cette affaire que l'instrument du plus grand bandit du monde, qu'on lui en apportera la preuve quand il voudra et qu'on lui livrera son nom.
« Ouais, rien que ça !»
s'exclama cette fois Monsieur Hilaire. Mais l'hôte lui avait déjà mis la main sur la bouche.
« Tais-toi ! »
Les lettres précisent les interventions et concluent que le subdamoun, s'il ne se débarrasse pas lui-même de ce bandit ou s'il ne le dénonce pas comme il le mérite, n'est que le complice, peut-être conscient, d'un assassin.
Et le subdamoun a cru cela tout de suite ?
Non, tout d'abord il n'a pas voulu le croire. Cela lui paraissait évidemment incompréhensible. Alors, pour comprendre, il a demandé à la sûreté qu'on voulût bien lui envoyer le père Cacahuète. Mais on n'a pas trouvé le père Cacahuète. Depuis que la révolution est terminée, on n'a revu le père Cacahuète nulle part.
« Il doit être mort, » a dit Cravely.
« Et je crois que Cravely a raison. »
ajouta chéri Bibi.
Dame, fit Hilaire, vous me l'aviez bien promis.
Écoute, écoute, rien ne pourra faire revivre le père Cacahuète, mais tu penses bien que chéri Bibi préférerait mourir lui-même plutôt que de voir le subdamoun au courant de certaines choses.
La personne qui écrit ces lettres, c'est donc tant de choses que cela?
Demanda Hilaire, qui n'en respirait plus.
« Elle sait tout !»«
C'est Askoff !» s'écria Hilaire.
« Non, ce n'est pas Askoff. Askoff est mort, de ma main, pour le punir d'avoir trahi.
C'est sa femme. J'ai reconnu son écriture. »«
La baronne ? Misère ! Comment n'est-elle pas déjà morte ?»«
Parce que je ne sais pas où elle est. C'est aussi simple que cela. Et elle sait tout, car son mari a dû tout lui dire.
Avant de mourir, Askoff, qui n'était plus qu'une chair pantelante entre mes mains qu'elle avait martyrisée, Askoff a trouvé encore la force de me jeter mon nom, chéri Bibi, et ma paternité, le subdamoun et le fils d'un assassin. Tu vois, il erre comme c'est simple. Sa femme le venge. Voilà où j'en suis. Rien n'est encore perdu, cependant. Elle n'a pas tout écrit, heureusement. Elle veut être reçue. Elle veut dire elle-même le principal. Et pour prouver que le marchand de cacahuètes est bien mêlé à l'affaire du coup d'État et a tout conduit depuis le début, elle amènera avec elle un témoin dont il sera impossible de réfuter les allégations. Tu devines qui ?
Petit bon Dieu !
À qui, du même coup, elle a promis de révéler le véritable nom de l'assassin de son père.
Moi aussi, je lui avais promis cette révélation-là à petit bon Dieu. Mais tu comprendras, n'est-ce pas, pourquoi je n'étais pas pressée de la lui faire.
Quelle sale histoire! Quelle sale histoire! Alors il faut tuer aussi petit bon Dieu.
Naturellement. Mais où sont-ils? Tu comprends, s'ils se cachent, s'ils prennent leurs précautions, ils doivent être terrés comme des lapins. Ils ne sortiront que pour venir dire à mon fils, « Ton père, c'est Chéri Bibi. »
Chéri Bibi s'était levé dans l'ombre et montrait une exaltation sans pareille.
« Oui, leur compte est bon, » exprima M. Hilaire de sa voix la plus douce en essayant de calmer Chéri Bibi.
« Mais comment tout cela va-t-il s'arranger ?»«
Oh, de la façon la plus simple. Ils ont obtenu un rendez-vous pour demain soir. »«
Comment avez-vous cela ?»«
Je ne sors plus de l'hôtel de la Morlière, Hilaire. Je vis chez Cécilie et chez mon fils, à côté d'eux, au milieu d'eux. On me cherche partout. » Je suis là. Il me fait chercher au fond des provinces. Je l'écoute, aller, venir, gémir, vivre, respirer. Un coin de rideau, un meuble, un peu de nuit, la cave et le grenier, tout ce qui peut cacher quelque chose et quelqu'un est le domaine de Chéri Bibi. Je regarde ce qu'il écrit, je fouille dans les débris de la lettre qu'il vient de recevoir, j'écoute l'ordre qu'il vient de donner. Je suis le plus heureux et le plus malheureux des hommes, et le plus renseigné. L'hôtel est mon refuge et mon repère, et j'y ai préparé la besogne de demain. C'est la baronne qui a fixé l'heure fatale, qui a exigé ce rendez-vous. Chez lui, car là, elle se croit en toute sécurité et persuadée qu'elle sera mieux gardée que partout ailleurs. Elle entrera publiquement et elle imagine qu'il faudra bien qu'elle en sorte. Vengé, ayant frappé à mort, d'un mot, à la fin, le père, la mère et le fils, et elle sera accompagnée de petit bon Dieu. Elle a dit au subdamoun de lui répondre à des initiales dans la correspondance d'un journal, et il a répondu. Elle aura compté sur tout le monde, excepté sur moi. Tu vois bien, Hilaire, comme c'est simple. Je ne sais où ils sont aujourd'hui, mais demain soir à 9 heures, ils seront dans le petit salon de l'hôtel du Marais, où le subdamoun viendra les rejoindre.
« Oui, oui, » acquiesça M. Hilaire d'une voix sourde. « C'est très simple.
Écoute encore un mot, et je n'ai plus rien à te dire. Sois chez toi, demain soir, à 8 heures. Mazeppa, qui ne sait naturellement pas de quoi il retourne, viendra te chercher de ma part, et tu le suivras. »
Ils ne dirent plus un mot, sortirent du cabaret de Petit Bon Dieu avec autant de mystère et de soin qu'ils y étaient entrés, et se quittèrent dans la nuit noire, après une solide poignée de main. Monsieur Hilaire, tout en rentrant chez lui, ne cessait de se répéter
« Puisque c'est si simple que cela, pourquoi a-t-il besoin de moi? Une baronne et un Petit Bon Dieu, il n'en fera qu'une bouchée. »
Sur cette pente, son esprit glissa si bien qu'il finit par se persuader que sa présence dans cette affaire ne pouvait être que gênante. Le reste de la nuit et le commencement de la journée suivante, la simplicité de l'affaire le tenailla encore plus qu'on ne saurait dire. Un premier avis qu'il lut dans un journal sur la clémence du gouvernement concernant les méfaits passés et sur l'amnistie pleine et entière qu'il accordait aux ennemis de la veille, à la condition qu'ils eussent rompu définitivement avec le passé. Enfin, l'aspect pacifique et plein de sécurité de sa boutique, l'alignement de ses bocaux et de ses caisses, la quiétude de son petit monde d'employés, empressés à servir une clientèle avide de nouilles et de fromages de gruyère, tout concourait à le convaincre de l'inutilité de remettre en jeu un bonheur personnel si heureusement et si récemment reconquis dans une aventure de cette simplicité. Il choisit une belle feuille de papier à en-tête de la grande épicerie moderne et il écrivit à Chéri Bibi de sa plus belle écriture. « Monsieur le marquis, je suis au désespoir.
un ordre de la préfecture de police m'ordonne de me rendre ce soir à 8h30 au cabinet du préfet, sans faute. Je crains d'avoir de ce côté quelques désagréments, et je préfère savoir à quoi m'en tenir tout de suite, ne serait-ce que pour vous. Des agents dans la rue ne cessent de surveiller tous mes gestes. Je vous souhaite bonne chance. » À 8h du soir, il sortit, après avoir glissé la lettre cachetée à son principal employé et lui avoir donné les instructions suivantes. « À 8h30, quelqu'un viendra me demander. Vous lui direz que je ne suis pas là. Il demandera alors 5 sous de ficelle. Vous lui donnerez sa ficelle et cette lettre en lui disant qu'il la porte immédiatement à son patron. » À 8h30, le jeune Mazeppa recevait la lettre et allait rejoindre Chéri Bibi chez un petit mastroquet voisin. Chéri Bibi lut la lettre. « Décidément, tous m'abandonnent !» fit-il avec un soupir. « C'est bien, je ferai la besogne tout seul. » Et il donna congé à Mazeppa. Chapitre 36. En famille. On dînait à 7h30 à l'hôtel de la Morlière. Ce soir-là, à 8, le repas qui avait été maussade était achevé. Frédéric et Lonnie avaient profité de ce que sa fiancée Marie-Thérèse dînait en ville chez une amie de pension pour mettre la conversation sur les difficultés de son mariage avec une jeune fille dont il était impossible de retrouver la mère. Le sub d'Amoun n'aimait point à entendre parler des Ascoff depuis qu'il savait que celui-ci l'avait trahi. Il n'ouvrit pas la bouche. Sur quoi, Frédéric se leva, prit congé de la marquise et de Lydie et annonça qu'il sortait faire son tour. Il ne serra même pas la main du sub d'Amoun. Il lui tenait rancune de son étrange prostration, dans un moment où il aurait dû, selon lui, se proclamer le plus heureux des hommes. Quand Frédéric fut parti, le sub d'Amoun se leva à son tour et annonça qu'il allait travailler toute la nuit. Il avait donné des ordres pour que 2 personnes, qui l'attendaient à 9h, fussent introduites dans le petit salon. Il demanda à n'être point dérangé. Il passa dans son cabinet de travail. Aussitôt, Lydie se rapprocha de la marquise et Cécilie vit qu'elle pleurait. « Lydie, mon enfant !» soupira Cécilie en l'embrassant. « Mère, dit la jeune fille, ceci ne peut plus durer. Je suis trop malheureuse. Il est trop malheureux. Il faut que je lui parle. Et je ne peux plus attendre. Il ne m'aime plus. Il ne pense plus qu'à elle. Il ne vit plus qu'avec son souvenir. » « Encore un peu de patience, Lydie. Je me trouve odieuse. Je n'ai point le droit de lui cacher plus longtemps ce qu'elle a fait pour moi. Je n'en ai point le droit vis-à-vis de lui, et surtout vis-à-vis d'elle. Elle est morte pour moi. Elle est morte à ma place. Hélas, pourquoi m'a-t-elle fait cadeau de la vie? Ce sacrifice, je ne l'aurais jamais accepté. Mais puisqu'il a été fait, il faut qu'il le sache. » « Il ne vous le pardonnerait peut-être jamais, ma pauvre enfant. » La marquise regretta aussitôt d'avoir laissé échapper cette maladroite parole, qui, du reste, expliquait toute sa conduite et le soin avec lequel elle retenait les confidences toujours prêtes à jaillir des lèvres de Lydie. En entendant cette phrase malheureuse, la jeune fille poussa un cri. « Ah, vous voyez bien qu'il ne m'aime pas !» Et elle se leva. « Je vais tout lui dire !» annonça-t-elle. Au ton de la phrase, Cécilie comprit qu'il n'y avait plus à lutter. « Allez donc, » fit la marquise, « et rendez-le plus malheureux encore. » Lydie eut un gémissement, mais ne se retourna même pas. Elle s'en fut dans sa chambre et en descendit avec un coffret. Elle ne frappa point à la porte du cabinet du sub d'Amoun. Elle l'ouvrit. Il était à son bureau, la tête enfouie dans ses mains. Il ne l'entendait pas. Elle fit le tour du bureau, se plaça en face de lui, déposa le coffret sur la table, se mit à genoux et attendit. Il leva la tête et vit cette figure d'ange agenouillée qui pleurait. « Lydie, que faites-vous ici ? » lui demanda-t-il d'une voix très douce. « Je vous apporte, » lui répondit-elle dans un sanglot, « la chevelure de votre ami. » Et elle ouvrit le coffret. L'or radieux, l'or vivant des cheveux de la morte, jeta son reflet. Il se leva en chancelant, il balbutiait « Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ?» Et elle répéta, mourante, « Je vous dis que je vous apporte les cheveux de mademoiselle Liskin. » Il arriva assez à temps pour soutenir la jeune fille, et si faible qu'il fût lui-même, il l'empêcha de glisser tout au long sur le tapis. Et quand il l'eut à demi-morte sur son bras, « Lydie, fit-il, comme vous êtes bonne, je vous adore d'avoir fait cela. Soyez-en persuadée, ma Lydie. » Et il déposa sur le front de la jeune fille un baiser qui la ranima. Cependant, il ne cessait de regarder d'un œil égaré ses cheveux, et il n'osait y toucher. « Prenez-les, ils sont à vous, » dit-elle, « je vous les donne. » Elle avait repris un peu de force, le sacrifice accompli. Elle prit dans ses mains tremblantes le funèbre cadeau. Ses mains glissèrent sur cette soie merveilleuse qu'il avait naguère si amoureusement caressée. « Vous permettez ? » fit-il. « C'était une amie fidèle qui est morte pour moi. « Vous permettez ? » fit-il. « C'était une amie fidèle qui est morte pour moi. « Vous permettez ? » Elle ne pouvait lui répondre. Elle laissait couler ses larmes et lui aussi, en embrassant les cheveux, pleurait. « Pauvre femme, soupira-t-il, pauvre Sonia. Oh, Lydie, vous êtes digne du plus grand amour, vous qui me procurez un moment pareil. Ces cheveux, où avez-vous eu ces cheveux, Lydie ? C'est elle qui me les a donnés, avant de mourir. Et comment cela, Lydie ? Nous partagions le même cachot. Vous avez ces cheveux depuis si longtemps, Lydie, et c'est seulement aujourd'hui que vous me les apportez ? Je suis en effet coupable, bien coupable, plus encore que vous ne le croyez, mon ami, avoua Lydie, baissant la tête sous le reproche qui commençait à sortir de cette bouche adorée. Je me disais que si je vous donnais ces cheveux, et si je vous apprenais dans quelles circonstances ils me sont parvenus, je me disais que vous ne me le pardonneriez peut-être jamais. Vous m'épouvantez, Lydie. Surtout, Jacques, soyez assuré qu'il n'y eut point de ma faute, cela je vous le jure. Mais qu'est-il arrivé ? Demanda-t-il haletant. Elle lui raconta tout et s'écria dans un dernier sanglot, « Aimez-la toujours, comme toujours je prierai pour elle. » Et elle retomba, épuisée. Jacques avait laissé échapper un cri sourd, mais il s'arrêta dans son immense regret superflu. Regretter que l'autre fût morte. N'était-ce point regretter que celle-ci fût vivante ? Il vit la faible enfant qui avait tant souffert et qui, si héroïquement, venait lui dire « Aimez-la, pleurez-la toujours ». Il se baissa sur elle, la prit dans ses bras et lui dit « Lydie, vous êtes digne d'elle. C'est moi qui suis indigne de votre amour à toutes deux. « Nous la pleurerons ensemble, Lydie, voulez-vous ? Emportez ces reliques, elles sont à vous. Nous ne nous en séparerons jamais. » La jeune fille reprit des mains de Jacques ce gage d'un amour auquel elle ne voulait plus croire. Et comme elle se soulevait, éperdue, étourdie, ne sachant plus où diriger ses pas, le subdamoun dit à la marquise qui était entrée silencieusement et qui avait assisté à la fin de la scène. « Il y a dans ce coffret une chose qui vous sera à jamais sacrée à vous, ma mère, comme à nous tous, parce que c'est la chevelure d'une femme qui a donné sa vie pour sauver la vie de ma femme. » Et il conduisit Lydie à sa mère. Cette scène de famille, des plus attendrissantes, se fut peut-être prolongée si un domestique n'était entré, annonçant que les deux personnes étaient là, dans le petit salon. Chapitre 37. Deux personnes attendent dans le petit salon. « C'est bien, » fit le subdamoun, d'une voix instantanément changée. « Faites attendre. » Et il pria les deux femmes de le laisser seul. La douce émotion de tout à l'heure avait disparu, faisant place à une agitation qu'il essayait vainement de dissimuler. Comme les deux femmes restaient stupéfaites de cette transformation, il leur fit un signe bref d'avoir à disparaître, et il s'assit à son bureau. Il essayait de se reconquérir. L'ennemi était dans la place, car évidemment c'était un ennemi qui lui apportait une révélation pareille, un ennemi à mort. Il ne voulait point, avant la partie qui allait se jouer, laisser voir son atroce inquiétude. Il devait dès l'abord traiter l'ennemi en imposteur, car l'imposture constituait son seul et dernier espoir. Oui, il voulait croire qu'on allait mentir, et il devait montrer, en face d'une pareille machination, un front calme. Malheureusement, les réflexions qu'il avait faites sur certains événements de ces derniers temps lui rendaient très difficile le calme nécessaire. Il eût préféré se trouver dans la brousse, en plein piège sauvage, que dans ce vieil hôtel si calme où les deux personnes l'attendaient dans le petit salon. Il avait choisi ce petit salon parce qu'il était fort retiré, à l'extrémité d'un corridor qui servait souvent dans la journée de chambre de repos à sa mère et où l'on pouvait causer en toute tranquillité sans crainte d'éveiller une oreille indiscrète. Le subdamoun ouvrit un tiroir et sortit un revolver qu'il arma. Il mit le revolver dans sa poche et puis il arpenta la pièce de long en large. Il s'efforçait d'arrêter un plan. Il n'y parvenait pas. Soudain, la porte s'ouvrit. Il se trouva en face de sa mère, qui paraissait aussi agitée que lui. « Jacques, » fit-elle, « qu'y a-t-il ? En passant devant le petit salon, dont la porte était restée entr'ouverte, j'ai entendu une voix qui disait « Va-t-il nous faire attendre encore longtemps ?» Et j'ai reconnu cette voix. C'était celle de la baronne d'Askoff. » Le subdamoun, sur ses gardes, parvint à cacher un peu l'émotion que lui causait le prononcé de ce nom. La baronne d'Askoff, c'était là l'ennemi. Il songea à tout ce que le baron avait pu faire ou faire faire au nom du subdamoun quand ils avaient encore parti liés, et intérieurement il en frémit. Au fond de quel abîme roulait-il donc? La marquise insistait. « Jacques, pourquoi n'as-tu plus confiance en moi? Je suis sûre qu'un grand danger te menace. » « Vous vous trompez, ma mère, » répondit-il. « J'ai rendez-vous avec la baronne d'Askoff parce que nous devons finir de régler certaines affaires concernant le passé. Mais je ne cours aucun danger. » Elle ne bougeait pas. Il en marqua de l'impatience. « Vous devriez aller vous reposer. Je vous avais, du reste, demandé de me laisser recevoir ces gens sans vous en préoccuper. » Il ne lui avait jamais parlé ainsi. Elle en fut plus épouvantée encore. « Tu ne te vois pas, malheureux enfant. Depuis quelques jours, on ne te reconnaît plus. Toi, ordinairement si maître de tes sentiments, tu n'arrives pas à nous cacher ton inquiétude. Pourquoi ne te confies-tu pas à moi? Ces Askoff, je les ai toujours considérés comme des bandits. » « Le fait est, accorda le subdamoun, que je les crois capables de tout. « Ah, tu vois ? « Eh bien, ne reçois pas ces gens-là. Il ne faut plus qu'ils viennent chez toi. Il faut rompre avec eux. » « C'est justement pour rompre qu'il faut que je les reçoive. Et puis, tu oublies que cette entrevue avec la baronne peut ne pas être inutile à la réalisation des projets de Frédéric et de Marie-Thérèse. « Tais-toi. Tu oses me donner un pareil prétexte. Marie-Thérèse attendra sa majorité s'il le faut. » Et s'il ne s'agit que de cela, j'irai recevoir la baronne moi-même. Ta figure me fait peur, et j'ai peur pour toi. » Il ferma les poings, et puis tout à coup, devant le visage douloureux de sa mère, il céda. « Écoute, mère, puisqu'il en est ainsi et qu'il faut en finir, je vais tout te dire en deux mots. Ces gens-là viennent, paraît-il, m'apporter la preuve que je n'ai été dans toute l'affaire du coup d'État que l'instrument d'un bandit, oui, d'un brigand de droit commun, d'un assassin, et ils viennent me dire le nom de cet assassin. Tu vois bien qu'il faut que je les reçoive. » Cécilie ne répondit pas, Elle n'en avait pas la force. Toutes ses terreurs, toutes ses appréhensions, tout ce qu'elle avait redouté depuis qu'elle avait remarqué comment le crime profitait à son fils, l'image terrible et confuse de l'homme qu'il avait sauvé elle-même, le souvenir hallucinant d'une captivité dans un souterrain où se traînait à ses genoux un esclave immonde, et surtout le nom du personnage qui s'était révélé par l'image dans la petite chapelle aux reliques, le nom fatal, le nom que les petits-enfants de France avaient appris à redouter comme celui de l'ogre ou du loup-garou. Tout cela surgit, réapparut, l'entoura d'une ronde diabolique, anéantit son esprit, brûla ses yeux, assourdit ses oreilles. Ses oreilles qui tintaient du nom aux syllabes si tragiquement sonnantes, « Chéri-Bibi, Chéri-Bibi !» Elle étendit les bras et cria « N'y va pas, n'y va pas !» Elle s'était agrippée à lui. Il la secouait comme une entrave quelconque, oubliant qu'elle était sa mère, et elle râlait sans lâcher prise. « N'y va pas, n'y va pas !» Affolé à l'idée que sa mère voulait l'empêcher de savoir, il se précipita, la traînant derrière elle. Et ils arrivèrent ainsi à la porte du petit salon qui avait été refermé. Là, il s'arrêta. Il écouta. Elle aussi, dominant subitement son commencement de folie, s'était dressée et écoutait. Ils n'entendaient rien, rien que le battement affreux de leur cœur. Il se décida à ouvrir la porte brusquement et ils entrèrent. Une lumière douce, tamisée par les fleurs de verre des lampes électriques, s'épandait sur le centre de la pièce, laissant les coins dans l'ombre. Ils s'étonnèrent. Il n'y avait plus personne dans le petit salon. « Parti ? » s'écria le subdamoun. « Pourquoi sont-ils partis ?» Et cela l'épouvantait davantage encore qu'ils fussent partis, quand il croyait les trouver là, à l'attendre. Comme il avançait vers le milieu de la pièce, il glissa sur le tapis. Il se pencha, sa main alla jusqu'au tapis. Puis il regarda cette main à la lumière. Il poussa un cri. Elle était rouge, du sang. Sa main était rouge de sang. Alors il se jeta à genoux et regarda. Regarda la grande mare de sang qui coulait, glissant vers la fenêtre. Là, près de la fenêtre, il ramassa un chapeau rond en feutre, ordinaire, vulgaire, bossué, et un peu plus loin un sac de femme, un coquet ridicule ouvert et tout maculé de sang. Il se releva avec une figure hâve, des yeux de fou. « On a assassiné quelqu'un ici. Appelle, mais appelle donc, appelle les domestiques !» La marquise restait là, debout, la bouche grande ouverte, les yeux pleins d'horreur, les mains tremblantes à ses joues blêmes. « Il les a encore tués ! Il les a encore tués !» Le subdamoun s'arrachait les cheveux. « Mais qui ? Il ? Ah, je veux savoir ! Je veux savoir !» Il se trouvait près de la fenêtre entr'ouverte qui donnait sur le jardin intérieur de l'hôtel. Cette fenêtre, sous une brise légère, fit entendre un léger grincement. Le subdamoun pensa aussitôt que le criminel s'était enfui par là, avec ses cadavres. D'un geste terrible, il finit d'ouvrir la fenêtre et bondit dans le jardin. Le clair de lune lui fit voir, en face de lui, un homme penché sur un soupirail qui poussait là quelque chose. Au bruit que le subdamoun avait fait en sautant, l'homme s'était retourné. Et le subdamoun reconnut son sauveur, celui qui l'avait fait fuir de la forteresse, l'homme qui avait tué M. Dimier, et tant d'autres. Il sortit son revolver de sa poche et courut à l'homme. Celui-ci vit bien qu'il n'aurait point le temps de se glisser par le soupirail, et s'enfuit, avec une vélocité incroyable. Il faisait des bonds insensés dans le jardin pour échapper au subdamoun. Jacques criait « « Arrêtez ou je tire !» Mais l'homme, sans répondre, l'avait encore évité et était revenu près de la fenêtre par laquelle le subdamoun avait pénétré dans le jardin. L'homme sauta par la fenêtre dans l'hôtel. Le petit salon était vide, il le traversa comme une flèche, gravit un petit escalier qui conduisait au premier étage et trouva là, sur le palier, la marquise qui appelait en vain d'une voix mourante les domestiques. Devant l'apparition épouvantable, elle tomba à genoux. L'homme dit « Cachez-moi, Cécilie !» Et il entra dans la chambre de la marquise, dont il referma la porte. « Cachez-moi, Cécilie !» La marquise poussa un cri. « Cette voix, cette façon de dire, Cécilie !» Et puis, ce suprême appel de celui qui avait été le compagnon de ses jeux enfantins et qui, jadis, contentait ses moindres caprices de demoiselle. Et cette façon de prononcer ce mot, Cécilie, comme le marquis dut toucher à son retour. Elle en frissonna jusque dans les moelles. Quand Jacques apparut à son tour sur le palier, elle répondit à ses questions furieuses « Non, je ne l'ai pas vu. » Et elle entra dans sa chambre. Elle ne le vit pas. Elle ne savait pas où il s'était caché. Elle dit tout haut « Ne bougez pas. » Les pas de Jacques s'approchèrent. Le subdamoun ouvrit la porte de la chambre de sa mère. Il avait toujours le revolver à la main. Sa rage et sa déconvenue le faisaient écumer. « Où sont les domestiques? Il n'y a pas un domestique ici. C'est à croire que cet homme avait pour complice tous les domestiques. » Sa mère ne lui répondait pas. Elle s'était mise à son prie-Dieu et priait. Le subdamoun ressortit, continuant ses affolantes recherches. Il entra dans la chambre de Lydie, que l'absorption d'un narcotique faisait dormir cette nuit-là plus qu'à l'ordinaire, sans doute à la suite de certaines précautions de chéri Bibi. Pendant l'absence du subdamoun de la chambre de sa mère, il n'y eut entre la marquise et l'homme qui était caché là quelque part pas un mot d'échangé. Il n'y eut entre eux que la prière qu'elle disait. Jacques revint. Il dit « Cet homme est le démon, et c'est cet homme qui m'a sauvé. » « Oui, » fit-elle en quittant son prie-Dieu. « Vous doutiez-vous de cela, ma mère ?»« Oui, » dit-elle encore. « Mais c'est la plus épouvantable des catastrophes. Nous ne connaissons pas cet homme. »« Si, » interrompit-elle, « moi je le connais. » « Vous le connaissez ?»« Oui. » Il s'était levé, il la fit asseoir de force. Il la brutalisait. Elle ne se défendit pas. « Depuis longtemps ?»« Oui. » « Son nom ?»« Chéri Bibi. » Il eut un sursaut. Sa raison chancelait. S'il n'y avait pas eu devant lui la figure tragique de sa mère, il aurait dû croire qu'elle se moquait de lui ou qu'elle était elle-même une folle. Il était le protégé de Chéri Bibi, de Chéri Bibi qui avait assassiné ses deux grands-pères. Chéri Bibi, ah, ce nom, il l'avait entendu autour de lui quand il était tout petit. Il avait été élevé dans un pays plein de la légende de ses crimes, dans une maison toute sanglante encore de son passage. Il savait qu'on ne comptait plus à cette époque le nombre des victimes de Chéri Bibi. Quand il passait près d'une boucherie du Paulet à Dieppe, sa miss l'arrêtait pour lui conter l'histoire du jeune garçon boucher qui avait appris derrière ses grillages à donner son premier coup de couteau. Il se rappelait encore qu'on cessait tout à coup de parler de Chéri Bibi, quand la bonne, l'excellente Jacqueline, en religion sœur Sainte Marie des Anges, s'approchait, car cette sainte était la sœur de ce monstre. Tout à coup, le subdamoun se mit à rire d'une façon effrayante. « Voyons, 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 qu'est-ce que tout cela veut dire? Ce chéri Bibi est mort depuis longtemps. » « Non. Mais vous croyez vous-même qu'il était mort? » « Oui. Et depuis quand savez-vous qu'il est vivant? » « Depuis que je sais que le marchand de cacahuètes et lui ne font qu'un. » « Et il y a longtemps de cela? » « Non, il y a quelques jours. » « Et vous ne l'avez pas dénoncé ? Il vous a sauvé. Que ne m'a-t-il tué à la place de ses victimes ?» s'écria le subdamoun. « Et moi aussi, hélas !» gémit Cécilie d'une voix étrange. « Oui, vous avez raison. 10 000 fois raison, Jacques. Il n'y a point au monde de personnage plus misérable que nous à cause de ce monstre. Je ne l'ai point dénoncé, mais je le maudis. J'aurais préféré mourir de sa main que de nous savoir défendus par lui. » Le subdamoun regardait sa mère. Elle parlait sans le regarder, avec une singulière énergie dans son affreux état de faiblesse. Il comprenait de moins en moins. « Mais au nom de qui? Mais au nom de quoi ? » s'écria-t-il. « Ce bandit a-t-il répandu autour de nous tant de sang? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette infernale protection? C'est cela que je voudrais que vous me disiez, ma mère. » Cécilie ne baissa pas la tête. Elle parlait comme les voyantes qui aperçoivent des choses que les autres ne voient pas. « J'ai eu bien des malheurs dans ma vie, Jacques, mais je viens d'apprendre que le plus grand est celui d'avoir été aimé jadis de ce petit misérable. « Vous, ma mère ? Oh, il ne m'en a jamais dit un mot, mais hélas, je le sais tout de même. Un chéri bibi n'ose pas parler en face à une honnête femme, mais il l'aime dans l'ombre. » Et il lui voue ses coups de couteau. Le subdamoun avait jeté ce cri sauvage, puis s'était affalé sur le coin d'un canapé. Soudain, il releva le front. « Ma mère, vous m'écrirez tout ce que vous savez de cet homme. Je ne veux plus vivre que pour une chose, et quand je l'aurai accompli, nous disparaîtrons. Je veux retrouver chéri Bibi et le conduire moi-même à ses juges. » Jacques avait à peine achevé de prononcer cette phrase que la porte d'un placard s'ouvrit et que l'homme se présenta. « Me voilà, » dit-il en croisant les bras. « Je suis prêt à vous suivre. Livrez-moi. » Le subdamoun avait toujours son revolver à la main. Il eut un mouvement instinctif et visa l'homme. L'homme ajouta « Ou tuez-moi. »« Cela vaudrait peut-être mieux, » fit le subdamoun en repoussant la marquise qui s'était jetée sur son bras. Mais pas devant ma mère. Où vous voudrez. » Cécilie conseilla d'une voix sourde entre ses dents claquantes. « Jacques, laisse partir cet homme, et que nous ne le revoyons jamais plus, qu'il disparaisse comme nous disparaîtrons nous-mêmes. » « Oh, » fit Jacques, « monsieur et moi, nous avons quelques petits secrets à nous dire. » Et il ouvrit la porte de la chambre. « Monsieur veut-il descendre dans mon cabinet ?» L'homme passa. Le subdamoun, revolver au poing, suivait. La marquise n'avait plus la force de se soutenir. Elle n'essaya même pas de les suivre. Elle avait accompli un effort surhumain en essayant de cacher le monstre. Elle laissa faire le destin. Et sa porte fut refermée. Mais elle n'était pas plutôt refermée qu'elle s'ouvrit à nouveau et qu'une ombre se glissait dans la pièce. Cécilie était en plein cauchemar. Elle ne s'étonnait plus de rien. Elle revint encore une fois à la réalité des choses en entendant la voix de l'ombre qui disait « Je demande bien pardon à madame la marquise, mais il faut que j'aie sur le champ un petit entretien avec madame la marquise. » Et elle reconnut l'ombre. Madame la marquise du Touchet avait devant elle monsieur Hilaire, son fournisseur habituel de la grande épicerie moderne. Chapitre 38 Chéri Bibi et le subdamoun. Dans son cabinet de travail, le subdamoun écoutait Chéri Bibi. D'abord, cela avait été un échange de propos rapide, terrible. Maintenant, Jacques paraissait désarmé devant l'incroyable audace du monstre. Chéri Bibi ricanait. « Oui, j'ai osé cela, cher monsieur, sans vous en demander la permission. De quoi vous plaignez-vous ? Vous n'êtes responsable de rien. Vous ne savez rien. Et personne ne saura jamais rien, si vous êtes assez fort pour continuer de l'ignorer vous-même. Que diable, cher monsieur, vous avez fait la guerre. En paix aussi, il y a des morts nécessaires. Depuis de longues années, je travaille dans l'ombre pour vous, vous évitant tout désagrément, me chargeant des besognes les plus répugnantes. Vous n'avez eu que le beau rôle, la gloire. Et depuis quelque temps, j'ai pris pour moi tous vos ducs d'Enghien. Vous, vous n'avez eu à marcher qu'au nom de la vertu, et vous n'avez connu qu'elle, grâce à moi. Là-dessus, vous me menacez de me tuer. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, si j'ai réussi? Mais ai-je réussi? Toute la question est là. Après m'avoir tué, allez-vous me dénoncer? C'est-à-dire, vous dénoncez vous-même? N'aurais-je tant travaillé que pour que ce pays retourne à l'anarchie d'où je l'ai tiré en mettant à sa tête un homme vertueux, et auquel le bedeau de Notre-Dame lui-même n'aurait rien à reprocher? Réfléchissez. Vous n'êtes pas un enfant, que diable! Vous revenez des camps. L'aigle guerrier n'engendre pas la timide colombe. Vous me comprendrez. Vous finirez bien par me comprendre.
Je comprends que vous êtes un assassin, exprima le subdamoun d'une voix sèche, en essuyant d'un revers de main la sueur qui coulait de son front blême.
Un assassin, répéta Chéri Bibi. Qu'est-ce qu'un assassin? Pourriez-vous me le dire?
Oh, je connais la formule. C'est celui qui tue son prochain avec préméditation.
Si je vous disais, monsieur, que moi, j'ai toujours prémédité de sauver mon prochain, et qu'avec cette préméditation-là, le plus souvent, il m'est arrivé de le tuer. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Autrefois, je disais « fatalitas ». Maintenant, je ne dis plus rien, et je crois au bon Dieu de mon enfance, qui punit les méchants par ma main. Voilà tout. Je n'ai rien à y voir.
Monsieur Dimier était un honnête homme et un bon magistrat, fit le subdamoun de plus en plus effaré de la théorie épouvantable du monstre.
Monsieur Dimier était mon ami. J'aurais donné ma vie pour sauver la sienne. J'ai pris la sienne pour sauver la vôtre. Sachez donc, cher monsieur, que je n'ai jamais tué que lorsque je n'ai pu faire autrement. On n'est pas un assassin quand on ne tue que lorsqu'on ne peut faire autrement.
On a le droit de tuer que lorsqu'on est en état de légitime défense.
Monsieur, depuis ma plus tendre enfance, je suis en état de légitime défense vis-à-vis de la société qui n'a cessé de m'attaquer. Un autre aurait pu en vouloir à la société. Moi, je lui ai pardonné. J'ai mieux fait que de lui pardonner. J'ai rêvé de la réformer, de travailler à la rendre meilleure et plus habitable sous un chef de mon choix. Et qui ai-je choisi? Vous. Et vous avez l'air de n'en être pas flatté. Vous faites le dégoûté. Vous vous retournez et vous dites « J'avais cela derrière moi. » Mais mon petit cher monsieur, si vous n'aviez pas eu cela derrière vous, vous n'auriez eu personne devant vous pour vous admirer, pour vous dire « Qu'il est beau, qu'il est brave, c'est lui qu'il nous faut, tout lui réussit. » Tout vous réussit, monsieur. Sans moi, vous n'auriez pas été élu à votre première élection.
Mon concurrent a été victime d'un accident d'automobile, déclara le subdamoun qui tremblait d'angoisse, mais qui montra un front hautain.
Oui, monsieur, d'un accident nécessaire.
Oh ! Gémit Jacques en serrant la crosse de son revolver.
Voulez-vous que nous continuions à énumérer les accidents heureux de votre brillante carrière ?
Interrogea encore Chéri Bibi, qui tournait autour de Jacques comme pour l'exciter par une exaspération croissante à ce qu'il s'avouât vaincu ou à ce qu'il en finît tout de suite avec Chéri Bibi lui-même.
« Je les connais tous, moi, ces accidents, parce que j'ai été à la fois votre ange gardien et votre chef de la sûreté, votre ministre de la justice et votre exécuteur des hautes et basses œuvres. Plaignez-vous, je ne vous demande rien en échange que d'en profiter ou de me tuer. Programme net, simple, facile à exécuter. J'ai fait mon ouvrage, je disparaîtrai. Vous ne me verrez plus jamais. Mais si vous devez, à la suite du petit incident de ce soir, donner cette démission comme un niais et abandonner la partie gagnée, tuez-moi, cher monsieur, tuez-moi, je vous en prie. »
Le subdamoun posa son revolver sur la table, s'assit, prit une feuille de papier et écrivit. Chéri Bibi s'approcha. Le subdamoun pensa que le bandit allait lui prendre son revolver. Il ne fit pas un geste pour l'en empêcher. Il était au bord de l'abîme. Il ne demandait, après ce qu'il venait d'entendre, qu'à y être précipité. Il avait cru à la vertu. Un homme était venu lui dire « Votre vertu, c'est mon crime. » Lui aussi ne demandait qu'à mourir. Au fond, le subdamoun n'était qu'un très gentil garçon. Bon, brave à la guerre, mais ce n'était pas un géant conducteur de peuple.
Chéri Bibi, par-dessus son épaule, le regardait écrire. Un instant, de sa patte énorme, il arrêta la main de l'autre au moment de la signature.
Vous allez signer votre démission de président de l'Assemblée. Vous allez annoncer à la nation stupéfaite et qui n'y comprendrait rien que vous renoncez à la vie politique. Pourquoi ?
Le Subdamoun se leva. Parce que je ne veux pas être le fils de vos œuvres.
Rien ne saurait plus vous en empêcher.
Je renie l'héritage. Et la preuve, monsieur, c'est que vous allez mourir.
Vous allez venger vos victimes ? Ricana Chéri Bibi en croisant les bras et en dressant vers lui son front formidablement calme.
Le Subdamoun avait repris le revolver.
« Je vais vous tuer, monsieur, tout simplement parce que vous avez assassiné mes deux grands-pères. »
Mais une main s'interposa. C'était la marquise qui arrivait, avec une allure de folle et qui était si pâle qu'on l'eût dit déjà prête à descendre au tombeau.
« Ne le tue pas, » dit-elle. « C'est ton père !»
Chéri Bibi eut une sourde exclamation. La marquise fit entendre un rire insensé. Alors, le Subdamoun se logea une balle dans la tête. Épilogue. Heureusement, il n'en mourut pas. Et toute l'aventure se termina mieux qu'on eût pu le croire après les tragiques événements de ces derniers chapitres. L'adresse avec laquelle Chéri Bibi arrangea toutes choses contribua pour beaucoup à rendre l'existence supportable aux membres les plus cruellement éprouvés de cette intéressante famille. La fameuse lettre de démission du Subdamoun fut expédiée à l'Assemblée par les soins héroïques du marchand de cacahuètes lui-même, qui, la mort dans l'âme, avait renoncé définitivement à la gloire politique pour son fils. L'hôtel de la Morlière fut fermé, ce dont nul ne s'étonna, puisque le Subdamoun annonçait sa résolution de se retirer de la vie publique et de goûter un repos bien gagné. Il fut, du reste, loué plus qu'on ne saurait dire, et à ce propos, il fit autant que jamais figure de héros. Sa conduite ne manqua point d'être comparée à celle de Saint Sinatus, célèbre pour s'en être allé labourer son champ après avoir sauvé la patrie. Mais si, à la vérité, on se réjouit de cette disparition, c'est que la popularité de Jacques était jugée redoutable. D'abord, par ceux qui craignaient qu'il voulût tout accaparer. Ensuite, par ceux qui, l'ayant plus longuement approché, l'avaient estimé à sa réelle valeur, qui n'était point, comme on avait voulu le croire, tout à fait transcendante. Un instant, celle-ci avait pu faire illusion à cause du grand courage civique et militaire de Jacques et de ses allures de petit caporal retour d'Égypte. Au fond, ce n'était pas un politique. Il affectait un grand mépris des contingences, mais se laissait gouverner par elles. Il voulait paraître insensible et c'était un tendre. Il était fait pour emporter une redoute et pour donner son cœur. Celui-ci, il ne sut point le défendre contre sa belle maîtresse, et c'est ce qui le précipita. Mais il eut le bon sens de le donner finalement à une honnête épouse, et c'est ce qui, bourgeoisement, le sauva. Quand il fut guéri de la blessure qu'il s'était faite au cuir chevelu, il ne vit plus que les bras blancs de Mademoiselle de la Morlière. Cette pauvre Cécilie, qui avait failli déjà devenir folle au cours de son existence mouvementée, échappa une fois de plus à cette pénible catastrophe en voyant revenir à la vie son fils qu'elle avait cru mort. Un tel drame devait effacer le passé. Ils se réveillèrent tous avec un ardent besoin de repos et de bonheur calme au sein de l'oubli des champs, dans un coin de France ignoré du monde et de la politique, comme il en existe encore au fond de quelques-unes de nos provinces les plus reculées. 2 mois s'étaient écoulés depuis les derniers incidents. Sur la plage arrière d'un magnifique transatlantique qui venait de quitter le Havre pour les Antilles, dans le calme du soir, 2 voyageurs étendus sur des rocking chairs échangeaient quelques propos avant de réintégrer les cabines de luxe que Chéri Bibi n'avait pas hésité à retenir afin de rendre le voyage plus attrayant pour son ami la ficelle. Chéri Bibi disait « Nous ne sommes plus jeunes, mon Hilaire,
Certes, je me sens, quant à moi, tout bouillonnant encore d'une vie terrible et surhumaine. Et je sais que de ton côté, tu n'es pas encore manchot. Mais maintenant que nous voilà en route pour les Amériques et que je ne crains plus d'éveiller en toi des regrets qui eussent pu te retenir en France, je ne serai point fâché de connaître les bonnes raisons qui t'ont déterminé à quitter le paradis de la grande épicerie pour suivre, dans quelque nouvel enfer, ton vieux chéri Bibi de marquis. Fit Monsieur Hilaire, après avoir fait entendre une légère toux destinée à cacher son embarras. « Il ne saurait y avoir de meilleure raison à ma conduite que l'amitié que j'ai toujours eue pour vous. » « N'empêche, releva immédiatement chéri Bibi, que vous m'avez salement plaqué, Monsieur Hilaire, en ce jour où pour la dernière fois je fis le plus pressant appel à votre incommensurable dévouement. » Je vous dirai donc encore, monsieur le marquis, que c'est aussi le remords de mon inexcusable lâcheté en ce dernier jour-là qui me fit tout abandonner pour vous et courir vous rejoindre par le souterrain en cet hôtel de la Morlière, où j'arrivais du reste quand tout était terminé. « Et mal terminé !» gronda chéri Bibi. « Si monsieur Hilaire s'était trouvé là plus tôt, j'aurais pu faire disparaître assez à temps les nobles dépouilles de madame la baronne et de ce cher petit bon Dieu pour me sauver moi-même sans être aperçu de mon subdamoun de fils. Quand je pense que ce petit lustucru s'est payé le luxe de se brûler la cervelle en apprenant que j'étais son père, n'est-ce point à vous dégoûter à jamais de travailler pour ses enfants? Ah, j'étais encore capable d'un bon sentiment, monsieur Hilaire, celui de la paternité. Et ça me l'a refoulé, j'ose te le dire. Mais par quel éclat d'en haut, par quelle révélation de la divine et cruelle providence, Cécilie a-t-elle pu deviner que chéri Bibi et le marquis du Touchet ont pu faire jadis un seul et même individu? Sans cette révélation-là, j'étais cuit. Oui, fit la ficelle, puisque vous étiez assez bête, sauf le respect que je vous dois, pour laisser faire. C'est bien la Providence qui l'a voulu. Inclinons-nous une fois de plus devant elle, qui se plaît à diriger nos pas. Nous ne sommes dans sa main que des fétus de paille. Je crois, moi, que madame la marquise a pu vous reconnaître à certaines inflexions de votre voix, qui ont dû lui rappeler certaines minutes inoubliables du passé. » Ainsi parlait monsieur Hilaire, qui se gardait bien d'apprendre à chéri Bibi qu'il avait été, dans la circonstance, le truchement unique de cette providence dont il avait la bouche pleine, car pour rien au monde, il n'eût voulu confier à chéri Bibi qu'il avait pénétré dans l'hôtel, juste à temps pour le voir entrer dans le cabinet du subdamoun, cependant que ce dernier, le revolver au poing, le suivait. Monsieur Hilaire avait alors immédiatement compris qu'il allait se passer du vilain, car il pensait bien que chéri Bibi ne tenterait même pas de se défendre. Aussitôt, monsieur Hilaire s'était résolu à révéler à la marquise l'effroyable secret, le mystère de la diabolique dualité et de la sainte unité du marquis et de chéri Bibi. Seul moyen d'éviter un parricide. Chéri Bibi avait donc été sauvé. Mais comme à la suite de cette audacieuse initiative de monsieur Hilaire, le subdamoun avait failli perdre la vie en se suicidant, et la marquise perdre la raison. On comprendra que monsieur Hilaire hésitait à s'en vanter. Du reste, ce n'était point seulement sur ce point qu'il dissimulait la vérité. Quand monsieur Hilaire prétendait que c'était son extraordinaire amitié pour chéri Bibi, ainsi que le remords de lui avoir refusé ses services, qui l'avait poussé à aller rejoindre son compagnon et son maître, il mentait. La véritable raison de cela, il finit par la dire, mais en dernier, et sans avoir l'air d'y attacher autrement d'importance. « Je n'oublierai jamais, quant à moi, » reprit monsieur Hilaire après un silence, « la douceur avec laquelle monsieur le marquis appelait jadis madame la marquise. » Ah, quand monsieur le marquis avait dit dans ce temps-là « Cécilie », il avait tout dit. Certes, vous fûtes un ménage adorable. Je ne saurais, ajouta-t-il, en dire autant du mien. La vie était devenue un enfer.
Qu'est-ce que vous me racontez là, monsieur Hilaire? Mais la dernière fois que vous m'avez parlé de madame Hilaire, c'était avec des sanglots dans la voix. Vous ne vous consoliez point de sa disparition.
C'est que je la croyais disparue, s'exclama monsieur Hilaire.
Elle n'est donc point morte?
Monsieur le marquis, la vérité est que ce jour que je vous parlais d'elle pour la dernière fois, je croyais bien en effet ne plus jamais la revoir. La paire de bottines et le chignon brûlé m'avaient fait répandre des larmes sur un sort que je croyais tragique, et je revenais tristement, passé 9 heures du soir, par la rue du roi d'Italie, me dirigeant vers la grande épicerie moderne, quand j'aperçus, venant à moi, la main tendue et le sourire aux lèvres, vous ne devineriez jamais qui, mes bons amis, messieurs Barquimel et Florent.
Eh quoi ! M'écriai-je, vous voilà ressuscité ! Allons prendre un petit verre sur le comptoir pour fêter ce beau jour.
Nous nous acheminâmes donc vers ma demeure, cependant qu'ils me contaient comment ils avaient échappé à la guillotine et avec quelle prudence ils s'étaient cachés jusqu'au rétablissement du calme. Soudain, M. Florent me dit « Notre premier soin à M. Barquimel et à moi en revenant dans le quartier a été de faire un petit tour par chez vous, en dépit de l'heure tardive. La devanture est débaissée, mais la porte était encore ouverte. Seulement, nous n'avons pas osé entrer à cause de Mme Hilaire. »
« Vous êtes bien bon, » déclarai-je.
« Évidemment, j'ai du regret de l'avoir trépassé, mais cela ne pouvait nous empêcher de trinquer à notre santé. »
Messieurs Barquimel et Florent me regardèrent comme si j'étais devenu fou.
« Ah, bah, vous en avez de bonnes, et vous aimez toujours la plaisanterie !» s'exclama Monsieur Florent.
« Jamais Madame Hilaire ne s'est mieux portée. Elle remplit le comptoir. »«
Hein ?
Quoi ?»
Je ne les écoutais plus. Je courus d'une traite jusqu'à l'épicerie. Je jetai prudemment un coup d'œil par un coin de la porte à l'abri de l'auvent, et j'aperçus en effet Madame Hilaire qui se dressait, formidable, au comptoir et qui confiait au commis de garde l'irritation qu'elle avait contre moi de ce que je n'avais point perdu mes mauvaises habitudes.
« Si ce n'est pas honteux, s'écriait-elle, de n'être pas rentrée à des heures pareilles.
« Mon Dieu, monsieur le marquis, c'est ce que je me suis dit à moi-même. J'avais honte de rentrer à une heure aussi tardive, tellement honte que je ne suis pas rentrée du tout. »«
Mauvais mari !» exprima chérie Bibi, qui souriait formidablement derrière ses énormes lunettes.
« Mauvais mari, je comprends tout. C'est pour fuir le devoir conjugal, monsieur Hilaire, que vous daignez m'accompagner aux antipodes. »
« Si seulement je savais ce que nous allons y faire !» osa demander M. Hilaire pour détourner la conversation.
« Eh bien, je vais vous confier ça à vous, M. Hilaire, malgré tout le mépris que votre conduite matrimoniale m'inspire. Après ce qui vient de m'arriver en France, je commence à être dégoûté des républiques. Je sais que là-bas, ils ont besoin d'un empereur. Qu'est-ce que vous diriez de « chéri Bibi empereur » ?»
« Je dis, » s'exclama M. Hilaire enthousiasmé, « que chérie Bibi n'a rien à se refuser. »